Décidément, le fait que le peuple burkinabé continue de rejeter la colonisation et que le coup d'État de janvier 2022 n'ait pas apporté ses fruits agace l'axe sotan. Le Figaro dit, la police a dispersé vendredi 12 août à coups de gaz lacrymogène des manifestants qui tentaient de se rassembler à Ouagadougou pour protester contre la présence de la France au Burkina, a constaté un journaliste de l'AFP. Rassemblés par petits groupes au rond-point des Nations Unies au cœur de Ouagadougou, les manifestants, dont certains brandissant des drapeaux russes, ont tenté de marcher en direction de l'ambassade de France avant d'être dispersés par la police. Mais pour qui prennent les médias français les Burkinas? Cela fait plus de 7 mois que la France, aidée par ses accointances locales, a fait un coup d'État dans le strict objectif de faire sauter cet extraordinaire verrou qu'a été et qu'est toujours la force populaire antiterroriste. Cette force qui, appuyant l'armée nationale, avait agi comme une digue insurmontable contre l'infiltration des agents takfiristes, des djihadistes, de l'Occident dans le nord du Burkina. Or, depuis ce coup d'État qui a placé les pions franco-occidentaux à la tête de l'armée, c'est cette carte que joue la France contre le peuple burkinabé, contre sa sécurité, contre ce bien-être, mais aussi contre ses liens avec ses voisins, colonisant le Niger et le transformant en une base grandeur nature de l'OTAN. Cet axe France-OTAN-US veut en faire autant avec un Burkina dont le peuple est entré dans l'histoire comme étant le premier à avoir chassé un convoi militaire armé jusqu'aux dents à Kaya, quitte à devenir un symbole pour les Nigériens, voire même les Maliens. Alors dire que quelques groupes brandissant les drapeaux russes ont été empêchés de se manifester contre la France par la police et franchement, insulter l'opinion. Mais est-ce une guerre civile endogène, cette multiplication des attaques terroristes? Depuis le coup d'État et la disparition des forces populaires de la scène de la sécurité nationale? Voici les preuves du contraire. Ces preuves sont reprises d'une lettre envoyée par le journaliste Daouda Émile Ouadraogo à l'adresse de l'ambassadeur France au Burkina. Preuve 1, le soutien de l'armée française au MSA en vivres et en armement. La première preuve vient de la contradiction dans les propos de l'ambassadeur de France au Faso. En effet, le 5 juillet, il dit que le terrorisme est un conflit endogène, une guerre civile avec à la clé une partie de la population qui se rebelle contre l'État et cherche à le renverser. Le 14 juillet, il dit que ce sont ces personnes abritées derrière un écran d'ordinateur qui contribuent à la déstabilisation de ce pays. Finalement, qui fait la guerre civile et qui sont ceux qui déstabilisent le pays? Preuve 2. Qui finance le terrorisme? L'une des méthodes de lutte contre le terrorisme est le tarissement des sources de financement. Jean-Luc Mélenchon a posé la question lors du débat sur les politiques de la France au Sahel devant Madame le ministre Parly de la Défense et le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Qui finance les djihadistes? Les sources classiques sont connues, le djihad en dénombre 11. Les plus connus sont les otages, le trafic de l'or, des hydrocarbures, les raps de bétail, les trafics illicites. On le sait, les otages constituent la première source de financement. L'éditorialiste Mamadou Diouf disait il y a un an qu'il y a une sorte d'hypocrisie dans la lutte contre le terrorisme. Or, la France est non seulement la deuxième puissance de l'UE, mais elle est incontournable dans tous les rouages politico-économico-diplomatiques de ce regroupement. Preuve 3. Prendre le contre-pied du conditionnement des esprits. Excellence, monsieur l'ambassadeur, il n'y a pas de guerre civile au Sahel. À l'analyse des faits historiques, c'est la France qui prépare la guerre civile dans les pays du Sahel, car le premier ministre malien, Cheguel Maïga, l'a dit sans embâge, c'est la France qui arme les djihadistes au Sahel. C'est le gouvernement français qui a coupé le Mali en deux pour créer un sanctuaire pour les terroristes pendant 2 ans. Aujourd'hui, en criant au loup alors qu'il n'y a pas de loup, vous voulez vous préparer les esprits à accepter le fait que les pays du Sahel seront les acteurs et les auteurs de la guerre civile que vous êtes en train de préparer comme vous l'avez fait en 1968 dans la guerre de Biafra au Nigeria? Que s'est-il passé? Au nom du pétrole, d'Elf et de la France-Afrique, il fallait créer une situation qui allait choquer l'opinion publique française à l'image d'un génocide. Au sein de la population, le sentiment anti-français est tout aussi grandissant que dans les autres pays du Sahel. La population sahélienne n'est plus décidée à rebrousser chemin. Elle va avancer jusqu'à ce qu'elle obtienne le départ imminent des troupes d'occupation étrangères de son continent. Autre victoire de taille remportée par le Mali, dont on se réjouit ici au sein de l'axe de la résistance. Au fait, en imposant l'un des pires embargos de toute l'histoire de l'Afrique au Mali, les pays occidentaux qui ont agi dans l'ombre de la CEDEAO ne doutaient pas un seul instant que l'État malien puisse les mettre au pas en moins de quelques semaines, et ce, à l'aide de cette extraordinaire solidarité interafricaine qui fait si peu à l'Occident. La Mauritanie, la Guinée, le Togo, l'Algérie, entre autres, n'ont pas laissé aux Occidentaux le plaisir de faire payer aux Maliens le prix de leur extraordinaire résistance et le résultat de cette coalition interafricaine et anti-Occident qui s'est moquée de la CEDEAO aux ordres et de l'ONU se manifeste aujourd'hui. Voici ce que rapporte à ce sujet Africa News. Le Mali a annoncé vendredi avoir réglé l'intégralité des impayés de sa dette causée par les sanctions qui lui étaient imposées par les États ouest-africains après deux coups d'État dans ce pays. Le pays ouest-africain n'a pu, pendant les 6 mois qui ont duré ces sanctions, entre janvier et juillet, régler le service de la dette, a indiqué le ministère de l'Économie et des Finances dans un communiqué. L'État a pris toutes les dispositions utiles pour régler les échéances impayées après la levée le 3 juillet des sanctions de la Communauté des États d'Afrique de l'Ouest, selon le communiqué qui détaille l'apurement par le Trésor public. Le ministère cite une dette extérieure d'environ 85,1 milliards de francs CFA et la dette de marché émise par syndication pour un montant de 66 milliards francs CFA. En outre, un emprunt obligatoire organisé le 9 août a permis de régler le reliquat des impayés de la dette de marché émise par adjudication, soit 215 milliards de francs CFA en plus du paiement d'autres échéances à des investisseurs. L'État du Mali a l'honneur d'informer les opérateurs économiques et les partenaires techniques et financiers que l'intégralité des impayés de la dette du Mali a été réglée, indique le communiqué du ministère. Mais le succès n'en reste pas là. Cette économie qui a réussi à se désendetter alors que l'Occident voulait l'anéantissement enregistre une nette croissance économique. Le Mali a adopté une nouvelle stratégie de croissance pour la relance de l'économie malienne suite à la levée des sanctions de la CEDEAO et de l'UMOA. Que ce soit sur le plan économique ou militaire, le Mali impressionne et avance. Les Africains sont courroucés par le niveau de développement de leur continent en général et par le niveau de développement des ex-colonies de la France en particulier. Nombreux pensent que depuis l'acquisition de leur indépendance, ces pays n'ont fait que s'enfoncer dans la pauvreté malgré les richesses de leur sous-sol et la densité de leurs forêts surexploitées par la France, qui détenait il y a encore quelque temps la priorité parmi les partenaires de ces pays. Lorsque je jette un regard sur le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Angola et bien d'autres qui n'ont pas été colonisés par la France, je me demande ce que les autres pays comme le Tchad, la Côte d'Ivoire, les deux Congo, la Centrafrique, le Cameroun, etc. ont fait à Dieu pour être colonisés par la France, puisqu'elle a passé son temps à piller les richesses de ces pays au bénéfice de sa population, déclare un Camerounais rencontré non loin de la poste centrale de Yaoundé. Pour lui, la France est à l'origine de la pauvreté dans laquelle baigne la majorité des pays africains. Les Camerounais sont tellement remontés contre cette puissance coloniale que certains n'hésitent pas à demander son départ définitif des territoires africains. Tous les présidents africains doivent suivre l'exemple du président du Mali qui a dit stop à la France en chassant les troupes françaises de son territoire et en multipliant les actions contre ce pays qui ne tient son existence que des richesses de l'Afrique. Parmi ces personnes, il y en a qui estiment néanmoins que l'Afrique est elle-même responsable du pétrin dans lequel elle se trouve, car elle a tous les moyens possibles de faire face à tout ce qui la maintient dans la pauvreté. Ces personnes rejettent entièrement la responsabilité sur les Africains eux-mêmes qui contribuent au maintien du continent dans le sous-développement. Par ailleurs, la question d'une monnaie africaine revient avec insistance dans toutes les interventions. Regardons un reportage préparé par Afrique le 360 à ce sujet.
Coopération France-Afrique, le ressenti anti-français est réel dans le continent. Au Cameroun, à Yaoundé notamment, les citoyens trouvent des raisons.
Les Africains ne se rigent pas contre la France, c'est plutôt l'approche que la France a utilisée pour coloniser les Africains qui fait à ce qu'aujourd'hui, les Africains qui sont déjà un peu plus éveillés se disent qu'ils ont été bernés pendant longtemps. Nous croyons que si la France joue le franc jeu en adoptant un partenariat gagnant-gagnant, les Africains ne seront pas fâchés, les Africains seront toujours avec la France. Mais si nous continuons à dire que nous voulons seulement les intérêts, nous aimons l'Afrique et non les Africains vont s'insurger contre la France. Je crois que c'est ça le problème.
C'est par rapport aux ressources, les ressources que l'Afrique produit, mais on n'a ressenti pas l'effet dans notre continent. Oui, on a trop de ressources naturelles et on constate que la France vient, porte ça et part avec. Et on est obligé d'encore prêter l'argent chez eux pour venir investir chez nous. Donc on est tout le temps endetté, quoi. Ouais. Donc c'est pour ça que beaucoup des Africains, on ne veut plus de la France.
Partout dans le pays, les Camerounais sont conscients du fait que l'avenir de l'Afrique dépend des Africains eux-mêmes et non d'une puissance quelconque.
C'est pas la France de venir conscientiser l'Afrique. C'est à l'Afrique elle-même de prendre conscience, hein, de son développement. Comme on dit souvent chez nous, nous sommes des Bantous, nous sommes des Africains. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra balayer ou nettoyer votre maison. C'est à vous de mettre de l'ordre chez vous. S'il faut établir des responsabilités, telle l'Afrique en a aussi, du degré, si on peut dire, de sous-développement.
Nos dirigeants doivent faire quelque chose pour que l'Afrique se développe. Donc si on se berne sur... si on reste seulement là pour penser que c'est la France qui viendra construire l'Afrique, on restera toujours là et la France va comprendre que nous sommes des esclaves à vie et on sera là pour combattre la France pour rien.
Pour cela, il faut des actions concrètes. Lesquelles alors, lorsque les domaines sont variés?
Moi, je pense bien que le devenir de l'Afrique passera premièrement par l'agriculture. Une adéquation entre ce que nous, les Africains, nous cultivons et ce que nous consommons. Par exemple, nous cultivons le cacao. Je crois que l'Afrique est le premier producteur de cacao. Si on mélange la Côte d'Ivoire et le Ghana, ils en produisent plus que le Brésil, qui est aussi un grand producteur. Mais malheureusement, nous ne consommons pas du cacao ni du café. Nous cultivons donc des choses que c'est des autres qui consomment et c'est des autres qui fixent des prix. Or, on a des choses que nous consommons, que nous pouvons bien cultiver. Déjà, un peuple ne peut pas parler d'un développement s'il n'a pas ne serait-ce que l'autosuffisance alimentaire. Et le second plan, la monnaie. Ça, c'est le politique, ça relève du politique. Et ce n'est pas la France qui viendra dire qu'elle a arrêté d'utiliser le CFA, non. Ce sont nos politiques qui doivent, de manière unanime, s'asseoir et réfléchir sur la question.
Il est l'heure pour l'Afrique de s'affirmer. Mais doit-on nécessairement mettre fin à la coopération avec la France?
Oui, la France doit laisser les Africains faire leurs choses. Oui, ils doivent partir. Oui, la démocratie, on est déjà à un niveau qu'on connaît ce que nous on veut. On ne veut pas les étrangers pour venir nous imposer les gens en Afrique.
Je ne peux pas le dire puisqu'il faut tisser des partenariats, pas seulement avec les autres pays, y compris aussi la France. Vous voyez que s'il faille chasser la France, il faudra voir que nous avons nos frères qui sont en France. Qu'est-ce qu'on va leur donner s'ils reviennent aussitôt? Ça va encore accroître la pauvreté.
Moi, je pense que ce n'est pas un débat pour moi qui a lieu d'être. C'est-à-dire nous sommes dans un village planétaire. Le monde est un village planétaire. Personne ne peut vivre replié sur lui. Le Cameroun aura bien besoin de partenaires.
Il n'y a point d'amitié entre les États. Seuls les intérêts comptent. Que les pays africains cherchent les leurs pour le bien-être de leurs enfants.
Le dernier cas de maladie à virus Marburg, confirmé au Ghana, guéri de son infection, a annoncé le service de santé du Ghana dans un communiqué publié vendredi. Le GHS a précisé que 3 cas d'infection avaient été enregistrés dans le pays et dont 2 autres patients étaient décédés de la maladie. Le seul rescapé des 3 a guéri de la maladie suite à 2 tests négatifs effectués à 48 heures d'intervalle par l'Institut mémorial de Nokoshi pour la recherche médicale. Ce patient a pu quitter l'hôpital et retrouver sa famille. Par conséquent, le Ghana ne compte plus aucun cas de NVM, indique ce communiqué. Le GHS a identifié 198 cas contacts dans 4 districts depuis l'apparition de ce foyer et 118 d'entre eux ont achevé leur période d'observation obligatoire de 21 jours. Conformément aux standards de gestion et de prévention des pandémies dans ces pays et en accord avec les exigences de l'Organisation mondiale de la santé, les agences étatiques concernées maintiendront une surveillance accrue de la NVM et d'autres fièvres hémorragiques virales selon le document. Les résultats définitifs des élections législatives du 31 juillet au Sénégal donnent le camp présidentiel légèrement en tête. Il garde la majorité absolue à l'Assemblée nationale grâce au ralliement d'un député de l'opposition. Le camp présidentiel au Sénégal est arrivé légèrement en tête à l'issue des législatives du 31 juillet, selon le résultat définitif, et il garde la majorité absolue à l'Assemblée nationale grâce à un nouveau ralliement. La coalition du président Macky Sall compte 82 députés, en baisse par rapport à ses 125 députés élus en 2017, sur les 165 que compte l'Assemblée, indiqué jeudi soir le Conseil constitutionnel qui a confirmé les chiffres provisoires annoncés le 4 août par la Commission nationale de recensement des votes. Mais elle obtient une majorité absolue de 83 députés contre 82 au total pour l'opposition avec le ralliement d'un député de l'opposition, Pape Diop, ancien président de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le Japon et le Togo ont conclu le jeudi 11 août 2022 un accord de financement de 1,75 milliard francs CFA au profit des populations togolaises vulnérables. La convention a été signée par le ministre togolais de l'Agriculture, Antoine Lekpa Gebeni, et Katai Katsuya, ambassadeur du Japon au Togo. À travers ce protocole qui s'inscrit dans le cadre du projet Kennedy Round, le Togo va réceptionner une quantité de riz blanc au profit des populations vulnérables sur l'ensemble du territoire national. Selon le Japon, ce soutien vise à aider l'OMI à faire face aux effets du changement climatique sur les productions du riz, notamment ainsi qu'aux perturbations économiques liées à la COVID-19. C'est aussi une façon de soutenir le gouvernement togolais qui fournit des efforts considérables pour assurer à sa population la sécurité alimentaire et nutritionnelle, apprend-on. Notons que grâce à des cargaisons de riz déjà offertes cette année par les autorités du pays du Soleil Levant dans le cadre du projet KR, le Togo, selon Antoine Gebeni, a financé plusieurs projets inscrits dans la feuille de route gouvernementale Togo 2025 pour le secteur agricole. Une mobilisation populaire a été lancée mardi 9 août à l'initiative du Mouvement patriotique du Salut, le parti du défunt président Idriss Déby Itno et de la maire de N'Djamena. Il voulait réserver un accueil triomphal au président du Conseil militaire de transition, Mamad Idriss Déby, qui rentrait de Doha au Qatar où il a signé un accord de paix avec une quarantaine de mouvements rebelles en vue de leur participation au dialogue national inclusif prévu pour le 20 août prochain. À sa descente de l'avion, ce mardi un peu avant midi, Mamad Idriss Déby a été applaudi par tout le salon présidentiel où étaient massés les officiers. Après les salutations d'usage, le cortège du président ne s'est pas plié au bain de foule qu'espéraient les organisateurs de la mobilisation. Des milliers de Djaménois arborent les couleurs de différents partis qui soutiennent la transition s'étaient déplacés.